Bonjour et bienvenue encore une fois dans mon bureau chez nous. On va continuer finalement notre recherche, compréhension sur que demander au Seigneur de nous apprendre à prier. Aujourd'hui, le thème va être sur le jeûne. Donc, pourquoi on est dans ce thème? Parce qu'on est dans Colossiens et j'aimerais juste nous rappeler ici à quel point l'apôtre Paul, avec son équipe, passe énormément de temps, pardon, passe énormément de temps en prière pour l'œuvre. N'oubliez pas, on est dans une culture très pragmatique, très, dans le sens qu'on est concret, on veut les choses, parce que finalement, on sort d'une culture qui a beaucoup d'avantages, qui nous a donné énormément d'avantages sur la grâce commune de Dieu, la science qui a produit finalement un esprit de compréhension des lois de la nature. On étudie plus la logique des choses. Et ça fait partie des Écritures. Parce que si Dieu nous a donné le mandat au point de départ en tant que créature humaine à son image et à sa ressemblance, de prendre soin de la création, de protéger, de développer, de cultiver la création, inévitablement, il faut qu'il nous ait donné cette capacité de pouvoir avoir cet aspect, de comprendre les lois qui gèrent toute sa création. Tu sais, si vous, un cultivateur, par exemple, je ne sais pas si moi je me mets à faire de la culture, eh bien, je vais aller finalement consulter des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et de science que moi. Je me rappelle un jour, Rosaire m'avait expliqué qu'à son époque, quand il était à la ferme de son père, il y avait des agronomes qui arrivaient finalement d'une formation universitaire. Beaucoup de gens les méprisaient au début parce qu'en disant, qu'est-ce qu'un gars à l'université peut m'apprendre s'il n'a jamais cultivé le sol? Puis Rosaire me disait que, pardon. Son père avait pris au sérieux ce que ces hommes lui avaient appris et ça avait augmenté l'efficacité, augmenté la capacité finalement de la culture de ces champs. Donc, de prendre le temps d'étudier les lois, parce que Dieu soutient toute chose par sa parole. Il a créé par sagesse les choses. Donc, ça veut dire qu'il y a des principes. Et ça, quand le christianisme, le judaïsme et le christianisme ont amené cette force énorme dans la culture humaine. Je vous le dis, ça a sorti des populations entières de tout cet aspect mythique, tu sais, dans le sens qu'on était rempli de superstitions avant, on confondait énormément le spirituel et le matériel. Et là, avec la science d'aujourd'hui, ben, on a fait des pas énormes. On vit dans un confort. Écoute, même les rois comme Salomon, qui était dans une gloire incroyable, je suis sûr qu'il était moins confortable que moi chez nous en hiver. Anyway, on a accès à de l'eau courante, on a accès à des médicaments. Surtout en ce moment, on est content que des hommes de science se penchent sur le problème du virus pour qu'on aboutisse finalement à des médicaments efficaces, à des médicaments ou même peut-être des vaccins qui vont fortifier notre système immunitaire. Donc, tout ça vient, encore une fois, de la capacité que Dieu nous a donnée en nous donnant le mandat de garder et de cultiver la création. Il faut être capable d'avoir ces choses-là. Donc, c'est la même chose, je pense, spirituellement. C'est des lois. C'est dans le sens, il y a un danger de vouloir que ce soit trop spontané. On pense, je ne sais pas d'où ça vient, mais on pense que le spontané est plus vrai que l'étudié, le réfléchi, le méthodique. Les Écritures nous donnent beaucoup d'instructions. Et donc, la force que la science nous a amenée a peut-être par contre appauvri notre dimension spirituelle. De comment maintenant on vit dans quelque chose qu'on ne peut pas, comment je pourrais dire, toucher. Tu sais, le monde de la science, on touche, on voit, on peut évaluer, mais le monde spirituel fonctionne par relation avec Dieu, qui est tout aussi objectif en passant. C'est basé sur des principes que le Seigneur a établis. Par exemple, comment une personne peut être sauvée? Eh bien, ce n'est pas juste parce qu'elle veut être sauvée. C'est en découvrant et en entendant le message de l'Évangile qu'une personne va être sauvée, en mettant notre confiance dans l'œuvre de Christ par la foi. Et c'est les Écritures qui nous le donnent. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut constater scientifiquement. La science a ses limites, de la même manière que notre dimension spirituelle a aussi ses limites, pour le monde spirituel comme pour le monde physique. Et en Jésus-Christ, les deux sont parfaitement réconciliés, parce qu'on va voir dans Colossiens plus tard, comment le Seigneur a tout réconcilié en lui, en Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et c'est ce mystère de Dieu fait homme qui vraiment nous dépasse. Parce que le mystère de Christ, c'est plus que Dieu, qui est déjà un mystère incroyable. Mais pourquoi maintenant Dieu était, quand il s'est incarné, qui est devenu un homme véritable, je me suis toujours demandé pourquoi les démons avaient si peur de lui. À toutes les fois qu'il rentrait à un lieu où il y avait quelqu'un qui était sous une possession démoniaque, démonisé, ou en tout cas sous l'influence d'un démon, d'un être surnaturel, qui, encore dans notre culture scientifique, nous échappe pas mal. Mais néanmoins, comment ça se fait que ces esprits, d'abord, le reconnaissaient, et deuxièmement, avaient terriblement peur de lui en disant « Es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? » Ils savent très bien qu'ils sont destinés à un jugement et à une condamnation extrêmement sévère. Mais c'est parce que Jésus, c'est Dieu venu en homme. Et la création de Dieu était destinée à l'être humain. Ça, c'est un domaine que souvent on oublie. C'est pour ça que la création tout entière en ce moment attend la révélation, la glorification des enfants de Dieu, la résurrection. Ça ne sera pas juste notre résurrection à nous autres. Parce que si on doit vivre la résurrection, eh bien, c'est qu'on va avoir des corps physiques. Il faut l'environnement physique. C'est pour ça que dans Romains 8, il nous est dit par l'apôtre Paul que toute la création attend, elle soupire elle aussi ce moment. Elle souffre la création. La nature souffre en ce moment sous la vanité à laquelle elle est soumise contre son gré. La même manière que nous aussi dans nos corps, dans nos vies, on peut souffrir. On est dans l'attente de tout l'accomplissement final. C'est déjà accompli à la croix. Christ est le prémisse maintenant de cette nouvelle création. Et mystérieusement, il est parti dans la présence de Dieu s'asseoir sur le trône de son Père, aussi en tant qu'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment étrange. Mais en même temps, il dit, il nous a promis une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Si aujourd'hui on meurt, eh bien, tant que la résurrection n'a pas lieu, on s'en va dans sa présence. La maison de son Père, Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Et ça va être pour revenir avec lui, pour habiter après une nouvelle création, avec tous ceux qui auront mis leur espoir, non pas dans ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes, mais dans ce que Christ a fait pour nous. Et le jeûne va nous aider souvent à ne pas perdre de vue notre faiblesse en nous-mêmes pour continuer à chercher en dehors de nous la vraie force qui se trouve en Jésus-Christ. On va regarder ça ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire le texte de Colossiens encore chapitre 1, et puis de voir à quel point Paul met l'emphase sur la prière pour les Colossiens, qui en passant, il ne les a jamais rencontrés. C'est une église qui semble avoir été fondée par un de ses disciples qui venait sûrement peut-être à son école à Éphèse, M. Épaphras. D'accord? On lit le texte. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Ou en d'autres mots, ça vous a aussi atteint, il vous a rejoint. Et dans le monde entier, il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ministère la prière. Seigneur, viens à notre secours, apprends-nous de plus en plus à prier. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on voit ici encore une fois l'emphase qu'il met sur la prière. Il prie pour eux. Il prie pour eux, pourquoi? D'abord, informer de leur foi. C'est pour ça qu'il est important, ensemble, de s'informer, de voir, de se tenir au courant de ce qui se passe. Par exemple, dans notre ministère, la Bible parle. Le Seigneur nous a donné un petit coin là, dans son royaume, de pouvoir travailler ici au Québec, en Haïti, au Bénin, au Togo, au Ghana, avec nos frères aussi là-bas en Afrique. Et donc, c'est important de se tenir informé. Parce que comment on va prier si, comme Paul dit, nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés? Je ne peux pas prier pour des gens que je ne connais pas. Je peux prier, par contre, pour des gens que je connais. C'est pour ça que c'est important, sans s'ingérer dans la vie des gens, en passant, mais d'être très observateur, attentif et intéressé à connaître l'autre, les frères et sœurs dans notre église, par exemple, dans notre mouvement, et qu'on va faire aussi de plus en plus un moyen de pouvoir toujours communiquer ce qui se passe, comme M. Tremblay nous communique régulièrement ce qui se passe en Afrique, soit sous le ministère de pasteur Kujo, ou encore le pasteur Joe, aussi qui lui est pasteur sur le côté le Ghana, Marc-André, qui est finalement vers le Cameroun, tout son ministère vers les gens en prison, Docteur Odena, qui nous garde au courant aussi de comment ça se passe dans le village, son ministère non seulement comme médecin, qui fait vraiment un travail incroyable, maintenant on est content qu'il soit revenu avec nous pour prendre des forces, et parce qu'on n'était pas équipé de toute façon pour prendre charge de la maladie, on n'a pas le respirateur, ainsi de suite, bref. Mais on voit aussi que non seulement il est médecin, mais les dimanches, il passe beaucoup de temps à investir dans la vie de toute la génération grandissante dans le village de Tivernier. Ça, c'est un œuvre absolument fantastique. Donc, notre soutien financier, c'est important. Notre soutien spirituel dans la prière est très important. C'est pas juste on va prier comme ça. Non, non, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur, apprends-nous à prier. Rappelle-nous que c'est concret, que c'est efficace. La prière du juste a une grande efficace, nous dit Jacques. Donc, que le Seigneur nous le rappelle. Et pourquoi de garder une vie en règle? Pourquoi d'avoir notre conscience propre, de marcher clairement dans sa lumière devant le Seigneur, parce qu'on a vu, il y a des obstacles à nos prières. Par exemple, comment je vis avec ma femme, avec mes enfants, comment je vis avec mon environnement, les employés ou les patrons, comment je vis comme citoyen. Le Seigneur, finalement, regarde énormément mes relations, comment je vis avec les gens. Et pour moi, ce serait, « Ah, mais regarde, Seigneur, c'est juste sur terre, ça. » Le Seigneur dit, « Non, non. » Fais pas de dualité là, entre la terre et le ciel. En Jésus-Christ, j'ai tout réconcilié. Donc, c'est pour ça que quelquefois, les religieux, les gens qui tombent dans un esprit religieux, mystique, étrange, peuvent même tomber dans du ritualisme. Et là, vous voyez, il ne faut absolument pas tomber dans le panneau avec le jeûne pour ça. Donc, il y a des gens qui croient tellement au rituel que même en ce moment, il y a eu finalement, c'est sûr, une crise, hein, dans le sens tout le monde doit rester chez lui. Toute forme de religion, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, ainsi de suite, beaucoup de religions ont des lieux de rassemblement, et nous aussi, mais que notre gouvernement, seulement à cause d'une épidémie, nous demande de rester chez nous, ça a mis certaines personnes en crise. On a entendu dernièrement, malheureusement, les juifs ultra-orthodoxes qui ont défié la loi en pensant qu'ils étaient au-dessus de ça eux autres. Je me rappelle quand on restait en Israël, et puis à l'époque, je ne sais pas si c'est encore la loi, mais à l'époque, les juifs ultra-orthodoxes, ceux qu'en Israël, ils appelaient les Black Coats, eh bien, finalement, ils étaient, eux autres, épargnés du service militaire. Ça, je parle dans les années 90, là, en 92, quand on restait en Israël. Et souvent, leur raison, c'est que vous êtes bénis, vous êtes protégés, ça fonctionne en Israël à cause de nous, disaient les ultra-orthodoxes, se fiant un petit peu peut-être dans leur interprétation dans la Genèse, lorsque, vous vous rappelez, Abraham est en train d'intercéder pour Sodome et Gomorre à cause de son neveu Lot, qui est là-bas. Donc, il dit, Seigneur, est-ce que tu détruirais les justes avec les injustes? Mais ça, c'est pas ton genre. Alors, il est en train de plaider, lui, toujours dans l'idée, comment je sors mon neveu de ce jugement qui s'en vient. Rappelez, il fait des négociations avec Dieu jusqu'à ce qu'arrive un certain nombre. Combien de justes il peut trouver dans la ville pour que le nombre de justes épargne le reste? Et j'ai l'impression que les ultra-orthodoxes et même beaucoup d'entre nous religieux, des fois on a l'impression que c'est à cause de nous. Et on peut tomber dans une forme de mépris. Donc le danger, le poison qui nous guette sans arrêt, et puis personne n'est épargné de ça, moi le premier, hein, c'est la justice propre. Comment je constate ou je regarde mes résultats, mes travaux, comment j'avance, ainsi de suite, et je perds de vue le Seigneur. Je perds de vue qu'est-ce que tu as au fond qu'on ne t'a pas donné. Tu penses qu'on t'a donné ces choses-là. Si quelqu'un est en santé, c'est vrai qu'on peut l'entretenir, notre santé, ou on peut être négligent sur la santé. Mais honnêtement, il y a une part qu'on ne possède pas. Il y a des gens qui ont des santé absolument incroyables, qui sont capables de passer au travers de plein de choses. D'autres, malheureusement, ont une génétique plus faible et ils semblent finalement attraper à peu près tout ce qu'ils pensent quand ça arrive. Maintenant, quand Paul est en train d'intercéder pour ses croyants, il rappelle ici, ayant été informés d'abord de leur foi, comme on a vu, ils ont mis leur espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ qui leur a été annoncée par Épaphras. Il n'aurait jamais pu naturellement arriver à cette intelligence. Il faut que ce soit un messager envoyé, justifié par le Seigneur, pour aller proclamer la bonne nouvelle. Et donc, ils ont mis leur confiance en Christ, ce qui produit une charité. Cette charité, comme il dit un peu plus loin ici, animée par le Saint-Esprit. À la source, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres ne vient pas de eux naturellement. Ce n'est pas juste qu'on est tous du même genre, on s'aime bien. Non, non, l'Église, ça peut être d'une variété absolument fantastique. Et c'est ça qui est le plus beau dans l'Église. Souvent, les gens vont se demander quel est le commun dénominateur du rassemblement de ces gens-là. Parce que souvent, il y a toujours un commun dénominateur dans nos relations. Il y a un besoin qui appelle la relation. Qu'est-ce qui nous appelle à demeurer dans la communion fraternelle, qui est vraiment quelque chose de très fort. C'est très important, la communion fraternelle. Eh bien, c'est qu'on est un nouveau peuple. On est une nouvelle famille. Parce que maintenant, étant né de nouveau, Jésus-Christ, notre grand frère, nous a dit qu'il retournait vers notre Dieu, en tant que créature, on peut comprendre ça, et son Dieu, il retourne en tant qu'humain, notre Père, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Lui, il a le droit de dire que c'est son Père, mais nous aussi maintenant par adoption. Et là, on est en train de découvrir qu'on est une famille. Et on est vraiment des frères et sœurs pour l'éternité. Et après ça, il dit aussi l'espérance. Notre présent est déterminé. Moi, j'interprète ma vie régulièrement par mon futur. C'est pas que je fuis mon présent. Je veux dire, je suis dedans, je n'ai pas le choix. T'sais. Mais je m'encourage régulièrement en fonction de ce qui s'en vient. Je sais pas, c'est comme quelqu'un qui, il finit sa semaine, tu sais, et il est vraiment content que c'est vendredi parce que pour lui, la fin de semaine s'en vient. Donc ça, c'est son espérance de toute la semaine. Mais nous, on a plus qu'une fin de semaine qui s'en vient. On a l'éternité qui s'en vient dans un paradis absolument incroyable. Ça va être tellement beau, ça va être tellement bon, ça va être tellement, enfin, sûr. Ça ne sera pas temporaire. Ça ne sera pas combien de temps qu'il me reste. Il n'y aura plus jamais de menace. Est-ce que vous réalisez? Plus jamais de menace. Et donc ça, c'est l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Car tant que la nouvelle terre, le nouveau ciel n'est pas recréé, de toute façon, à mon dernier battement de cœur, je m'en vais chez nous. Mon grand frère, il m'a présenté son père. Il a payé ma dette. Et puis, présentement, il nous apprivoise. Il développe une relation avec nous autres. Il veut nous montrer qu'il nous aime. Il veut nous montrer qu'il est vraiment digne de confiance. Parce que nous, en tant qu'humains, c'est normal, on va toujours chercher des points de repère solides. On n'est pas fait pour marcher dans des marécages mous. On cherche d'un terrain solide. C'est pour ça qu'on parle souvent de Dieu comme étant le rocher, quelque chose de solide, de sûr, que quand le vent, la tempête, les éclairs, tout ça arrive, qu'on soit dans un lieu sûr. Donc, Tout ça motive maintenant la vie de prière. Et ça, c'est vraiment la bénédiction la plus grande qu'on peut avoir. Maintenant, il continue à intercéder. Et si vous remarquez bien ici, dans l'intercession, il demande quoi? Un, qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Donc, on est là maintenant pour enfin découvrir une autre volonté que la nôtre, à laquelle on va s'enrichir, on va connecter, on va se nourrir maintenant, parce qu'on ne réalise peut-être pas qu'il y a plein de choses dans notre vie qui motivent notre volonté. Pourquoi j'aime telle chose puis j'aime pas telle autre chose? Souvent, c'est ce qui précède. Un texte vraiment qui est intéressant à réaliser. On sous-estime des fois souvent nos motivations. Tiens, on n'est pas juste logique. Puis même, honnêtement, je pourrais dire que je ne sais pas jusqu'à quel point la logique est vraiment la force la plus grande. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'affection. Bonne ou pas bonne, là, le côté affectif. Est-ce que vous vous rappelez quand Paul va revenir avec Barnabas dans la synagogue de la ville où il était entré la première fois, dans Actes 13, et puis il va faire un message incroyable, il était embarqué pour... il arrive à Perge, en Pamphylie, et puis... il va finalement trouver une synagogue, il va commencer à prêcher là. Ça a tellement touché les gens qu'ils ont demandé « Peux-tu venir le prochain Shabbat nous parler? » Et puis finalement, il va retourner le prochain Shabbat. Et là, il est dit, lorsqu'il... le verset 44 là, du chapitre 13, regarde bien, c'est... La ville entière dit au verset 44, « Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » C'était pas quelque chose de béni, ça? Il dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Peut-être qu'eux-mêmes ont essayé, dans leur synagogue, d'amener à leur foi, à ce qu'ils connaissaient de Dieu, peut-être la ville où ils demeuraient autour. Par contre, quand Paul vient, un message, le Shabbat d'avant, ça se répand dans toute la ville en disant, il y a une bonne nouvelle. Tout le monde était fasciné par le message de l'Évangile. Le Seigneur ne vient pas sauver les meilleurs, le Seigneur vient sauver les perdus. Et puis là, tout le monde s'est comme réjoui, tout le monde s'est retrouvé dans cette synagogue. Et quand les Juifs ont vu la foule, plutôt que de se réjouir, de voir qu'ils viennent à Dieu, parce que même, n'oubliez pas, le Shabbat d'avant, ils avaient été touchés par le message. C'est pour ça qu'ils leur ont demandé à Paul et Barnabas de revenir. Mais remplis de jalousie, nos motivations peuvent carrément scraper notre vie. Scraper, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, il s'opposait à ce que Paul disait en le contredisant, en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, affectif, assurance. D'où vient cette assurance? Ils viennent, non pas qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs, mais que le Seigneur leur a donné vraiment le message qu'il doit donner. Ils sont convaincus d'être dans la volonté de Dieu. Ils ont de l'assurance. C'est à vous, Paul leur dit, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncé. Mais puisque vous la repoussez, il repousse la parole de Dieu. Mais demandons-nous ici, la parole vient de nous dire parce qu'ils étaient remplis de jalousie. C'est même plus le message. C'est qu'ils sont jaloux du succès de Paul et Barnabas et tellement remplis de jalousie, là, il fallait qu'ils détruisent ces hommes. On est dangereux. Et vous allez voir à quoi sert le jeûne. Donc, il dit, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même, indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, tous ces gens de la ville qui étaient là, toutes les nations, nous nous tournons vers les ethnies maintenant, en dehors d'Israël, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Et il cite les Écritures. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction. Excitèrent, c'est pas logique, c'est affectif. Ils ont provoqué, excité. Donc, on est plus complexe qu'on peut penser. Donc, quand on prêche la parole de Dieu, quand on se parle ensemble, il ne faut pas non plus oublier le côté de s'encourager. L'encouragement, c'est plus que dire, regarde, la logique de la chose. Non, il y a plus que la logique. De se rappeler la bonté de Dieu. de louer le Seigneur de ses merveilles, de nous rappeler à quel point il nous a aimés, de parler d'un côté aussi très affectif de notre marche avec le Seigneur. D'où la communion fraternelle. Ça découle dans tout ça. Donc, le jeûne maintenant. Si on revient au jeûne, puis en passant, je me suis beaucoup inspiré encore de M. Gruden dans sa théologie systématique. Vous pouvez trouver ça à la suite là, de la prière là, dans sa théologie. C'est vraiment, il fait un bon travail, je l'aime bien. Moi. Donc, il dit ici, la prière est souvent associée au jeûne dans les Écritures. Le jeûne accompagne parfois des moments intenses de supplication devant Dieu. Comme quand Néhémie, après avoir entendu, entendu parler de la ruine de Jérusalem, jeûna et pria pendant plusieurs jours devant le Dieu du ciel. Vous trouvez ça dans Néhémie, chapitre 1, verset 4. Il jeûna pendant plusieurs jours. Il jeûne devant le Dieu du ciel, le Créateur de tout l'univers, le Dieu qui a adopté Israël comme étant la nation qui s'était formée, choisie pour le salut de toutes les autres nations par après, car le salut vient des Juifs. Mais il jeûne. Il jeûne pour chercher la volonté de Dieu parce qu'il est brisé. Parce que c'est en entendant parler de la ruine de Jérusalem, que Jérusalem c'est de Jérusalem que la bonne nouvelle va sortir dans le monde entier, est en ruine. Après ça, il nous est dit, les Juifs, après avoir pris connaissance du décret d'Assyérus, ça c'est dans le livre d'Esther, ordonnant ici leur extermination, encore une fois, les Juifs ne l'ont pas toujours facile, hein? Se mirent à jeûner et à pleurer et pousser des cris. Esdras, chapitre 4, verset 3. Vous voyez, le jeûne touche non seulement dans le sens, pas tellement à la limite la raison, on pourrait quasiment dire. Parce que le jeûne, tu sais, dans le sens, pour quelqu'un de très actif, ça semble passif. Tu sais, t'arrêtes de manger, tu t'affaiblis volontairement. Mais pourquoi? Pour exprimer, encore une fois, pas juste une logique devant Dieu, mais le côté affectif. Seigneur, on est découragé. On n'a plus d'autre espoir que toi. Et nous, on vit dans ce corps, et l'apôtre Paul le rappelle, tant qu'on est dans ce corps, on vit l'impression loin du Seigneur. Quand on meurt, on va être délivré de cette impression d'un côté lointain du Seigneur. Car c'est un privilège que le Seigneur souvent nous accorde, quelquefois, il y a des temps, je ne sais pas comment expliquer ça, où est-ce qu'on sent tellement la présence de Dieu. On sait qu'on parle à quelqu'un de vrai et de vivant qui est là, qui nous écoute. Et il y a d'autres moments, il y a des déserts. Il peut y avoir des déserts dans nos vies. Il est toujours là, le Seigneur. Il est tellement là qu'il est en nous. Il a fait de nous son temple. L'Esprit de Dieu nous habite. Mais moi, affectivement, des fois, je peux avoir l'impression qu'il est loin. On pense au psaume 13, « Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? » Tu as l'impression que le Seigneur peut t'oublier dans certaines circonstances. Et donc, le jeûne est une manière aussi que Dieu nous accorde pour pouvoir exprimer notre douleur, de pouvoir exprimer notre tristesse, souvent notre découragement. C'est quelque chose que j'ai apprécié parce que finalement, c'est vrai que quand tu es frappé par le malheur puis tu ne comprends pas pourquoi telle situation est en train de mal tourner, et puis tu as beau essayer de rattraper les choses, puis tu sens à un moment donné que ça ne donne rien. Eh bien, honnêtement, de pouvoir jeûner, s'asseoir devant Dieu, arrêter tout, trouver un lieu à l'écart, et de vraiment exprimer ta peine devant Dieu. Parce que ça ne donne rien d'exprimer des fois aux autres. Ça va donner quoi? M'essayer de gagner à mon parti plus de monde? C'est pas ça que je veux. Dans des moments difficiles, je réalise très bien que je ne veux pas me confier dans les gens. Ça ne donnera rien. Pourquoi les accabler? Pourquoi j'accablerai ma femme, par exemple, de tous mes soucis, les soucis que peuvent me causer l'œuvre de Dieu? Comme chacun de vous, tout le monde a une vie qui peut, des soucis peuvent nous être causés, pas vrai? C'est pas un manque de spiritualité de sentir le fardeau souvent que nous causent les soucis de nos activités. L'apôtre Paul lui-même parlait du poids des soucis que lui causait l'œuvre des églises. Il s'occupait des églises et c'était difficile aussi pour lui à l'époque. Il réalisait tout le besoin quand il écrit aux Galates pour être sûr finalement qu'ils ne vont pas passer à côté, qu'ils ne vont pas se perdre dans une forme de légalisme du judaïsme, en pensant que retournant au judaïsme dans la forme de l'image, eh bien, ils ne réalisent pas finalement qu'ils sont en train de renier la réalité. Et puis là, il prie pour eux, il va écrire à ces gens-là. Il est souvent brisé. Pour les Corinthiens, la même chose. Quand tu le vois, quand il écrit aux gens, il les encourage. Porter les gens dans notre cœur, là, c'est je sais pas comment vous dire ça. Ça cause beaucoup de joie quand ça va bien. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais inévitablement, quand tu vois des gens affligés que t'aimes, t'es brisé. Surtout quand tu sens ton impuissance humaine face à une maladie qu'un frère, une sœur peut avoir et qui souffre. Ou encore une fois, un manque quelconque que tu ne peux pas aider plus qu'il faut. Le jeûne est une manière de pouvoir exprimer devant Dieu. Devant un Dieu qui nous écoute, qui prend à cœur. Moi, c'est ce qui m'encourage de savoir que je peux manifester ma petite faible humanité devant Dieu. Et qui n'est pas méprisé, n'est pas rejeté. Au contraire, il m'a fait de la place pour dire, viens pleurer dans mes bras. Viens vers moi, je suis ton père. Je t'aime. Je t'abandonnerai jamais. Déverse tes soucis, décharge-toi sur moi de tous tes fardeaux. Et le jeûne est une manière de l'exprimer. Par exemple, Daniel se tourne vers le Seigneur pour prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en se couvrant de cendres, dans Daniel 9, verset 3. Daniel est devant finalement une vision qu'il y a des choses, devant des défis, où est-ce que malgré tous les succès qu'il pouvait avoir, malgré même l'amitié et le respect du roi Darius, il sait très bien que les relations humaines sont tellement fragiles. Darius, par exemple, dans le livre de Daniel, qui était l'empereur de l'époque, qui aimait beaucoup Daniel, qui reconnaissait. Même Nabucodonosor, avant lui, avait reconnu que, wow, Daniel, il a vraiment l'esprit de Dieu. Le gars, il peut expliquer des mystères. Il était même capable, vous vous rappelez, parce que Nabucodonosor devait être un petit peu parano, il a eu un songe, il n'arrive pas à expliquer son songe, mais est-ce que, à tort ou à raison, il demande, peut-être parce qu'il demande une garantie, je ne sais pas, mais il dit, je ne me rappelle plus du songe. Puisque vous êtes capable de me donner l'interprétation, donnez-moi aussi le songe. Je pense qu'il voulait mettre à l'épreuve les gens. Il avait peut-être oublié le songe, peut-être. Mais des fois, ça peut être une stratégie pour dire, attends, comment je peux garantir que ces gens-là me donnent la vraie interprétation? Et vous vous rappelez, Daniel, finalement, cherche la face du Seigneur avec ses amis. Et le Seigneur lui accorde le songe et son interprétation. Donc, malgré tous les succès les plus incroyables qu'un homme peut avoir auprès de l'autorité de l'époque, la méchanceté humaine, la faiblesse humaine, les relations humaines. C'est comme, en réalité, on vit sur un lac qui est gelé. On connaît ça au Québec. Il y a des temps de l'année, le lac est tellement solide que tu peux mettre un village dessus, hein? Les villages de pêche. Mais à chaque année, on entend des gens qui ont péri sur les lacs. Parce que le lac, il fond. Tranquillement, la glace va fondre. Les relations humaines sont comme la glace d'un lac. On ne peut pas garantir. Il y a des courants souvent sous le lac, à certaines places qui amincissent les relations. Il y a toutes sortes de motivations dans nos vies étranges. Il y en a un qui est sûr, qui n'est pas une glace, c'est ça qui est béni. Ce n'est pas une glace gelée qui est entre moi et le Seigneur, c'est un rocher. C'est un rocher qui fasse chaud, qui fasse froid, il est solide. Et donc, c'est pour ça que Daniel, plutôt que de se tourner vers ses contacts, il se tourne continuellement dans son livre, il nous l'écrit. Vers Dieu, souvent par le jeûne, en s'humiliant. Parce que quand il s'habille d'une toile de sac, il se couvre de cendres, c'est pour s'humilier, pour se rappeler, je ne suis que poussière. Parce qu'oubliez pas, il aurait pu devenir très orgueilleux, Daniel. Un gars qui est un jeune qui part comme esclave, déporté finalement de Jérusalem, et un jour, il se retrouve finalement dans la cour royale de Babylone. Et là, il y a un pouvoir incroyable, il y a une richesse, il devait être extrêmement riche, ce monsieur-là. Mais il s'est maintenu dans l'humilité. Le jeûne a régulièrement été utilisé pour Daniel pour montrer qu'il descendait des impressions de succès énormes pour commencer à moins avoir de temps avec le Seigneur dans la prière et beaucoup plus dans sa compréhension des choses, la mécanique des choses. Et régulièrement, non, il est retourné au Seigneur. Il jeûnait souvent pour avoir l'explication du Seigneur. Différemment d'un autre homme de Dieu qui malheureusement s'est perdu et a perdu Israël, Salomon. Salomon a commencé dans l'humilité. L'humilité est vraiment la clé la plus importante de notre vie. L'humilité. S'humilier volontairement. Se rappeler qu'on n'est pas tant que ça. On n'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Salomon a commencé dans l'humilité et Dieu dit « Qu'est-ce que tu veux? » Et plutôt que de demander la richesse, la puissance, la gloire, la vengeance de ses ennemis, il demande la sagesse pour savoir comment diriger ce peuple si nombreux, si déterminant pour l'histoire humaine. Et par cette humilité, le Seigneur dit « Je te le donne. » Il va lui donner la sagesse d'une manière absolument incroyable. Mais le danger, c'est que Salomon lui-même s'est détourné tranquillement en se confiant plus dans le don que le Seigneur lui avait donné, cette capacité absolument incroyable d'analyser les choses, de les comprendre, plutôt que de se rappeler qu'à moins que le Seigneur lui donne le sens final, Paul rappelle que la connaissance peut enfler aussi, mais l'amour édifie. Il avait perdu en chemin cette relation. Il a commencé finalement à se regarder en regardant ses accomplissements. Il a dit, non, moi je suis capable de gérer le péché plus qu'un homme ordinaire. C'est pour ça que les autres rois devront se soumettre à la loi de Dieu de ne pas marier des femmes étrangères, de ne pas retourner en Égypte pour aller acheter des chevaux et de ne pas rendre Jérusalem si prospère. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas capables, comme moi, de gérer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé dans le panneau. Il a amené Israël, finalement, dans une division à la fin de sa vie. Daniel a contrecarré les effets du succès de sa vie sans arrêt par des moments où il s'humiliait devant Dieu pour réaliser que, comme la nourriture me donne de la vigueur, et donc c'est quelque chose de l'extérieur que je prends quand je mange pour donner de la force à mon corps, de la même manière, j'ai besoin du pain de vie, la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et donc, quand est-ce qu'on n'a plus faim de la parole de Dieu? C'est quand, finalement, on commence à être auto-satisfait. On se contemple. On s'aime. On commence à trouver qu'on est trippant. T'sais? Et là, on a de moins en moins faim. On ne se rend peut-être pas compte qu'on est en train de s'affaiblir spirituellement. De la même manière que si je ne mange plus de la nourriture physique, ça me rappelle à quel point je suis quelqu'un de faible. Je dépends de l'extérieur d'une manière incroyable. Je dépends de l'air que je respire. Je dépends de l'eau que je dois boire. Je dépends de la nourriture que je dois manger. Je dépends aussi des relations humaines avec qui je vis. On le voit en ce moment. Il y a des gens qui sont isolés, qui trouvent ça extrêmement difficile. On réalise à quel point qu'on n'est pas des créatures seules. Donc, le Seigneur, je pense, nous a donné le jeûne comme un moyen de s'humilier. Si vous voulez la définition que le Seigneur donne lui-même du jeûne, vous pouvez lire dans Ésaïe 58, et là vous allez lire « Qu'est-ce qu'un vrai jeûne devant Dieu? » Le danger d'un jeûne mal fait. Un jeûne qui rend orgueilleux, c'est comme de la connaissance qui rend orgueilleux. Est-ce qu'on est contre la connaissance? Jamais de la vie. Faute de connaissance, mon peuple périt. Parce que tu as refusé l'instruction, tu t'es détruit. Par contre, le jeûne, s'il est mal fait, plutôt que de produire de l'humiliation personnelle, de comme baisser un peu la pression, et de reconnaître finalement qu'à moins que le Seigneur me parle, à moins que le Seigneur m'aide, à moins que le secours me vienne du Seigneur, que je puisse exprimer ma misère devant Dieu, je dois la sentir. Je sais que c'est désagréable, c'est pas le fun, mais je dois quand même sentir cette misère. Parce que le danger, c'est si Dieu vous bénit, si vous êtes dans un bon moment de votre vie, c'est facile de devenir orgueilleux. C'est pour ça que Paul dit « Enseigne aux riches, rappelle aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux. » Parce que la richesse, quand ça va bien trop longtemps, on peut devenir prétentieux. Et quand on rencontre quelqu'un que ça va mal, qui est pauvre, on peut avoir un jugement facile. C'est trop facile de tomber dans ce panneau-là. Donc le jeûne sert, avec la prière souvent, à s'humilier devant Dieu, à pouvoir exprimer notre misère, ne pas avoir peur de cette misère, pas avoir peur. Donc, M. Glodin continue en disant, le Nouveau Testament, Anne servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Vous pouvez lire ça dans Luc au chapitre 2, verset 37. Cette femme qui a été veuve très jeune s'est consacrée au service dans le temple. Je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement, mais cette femme, néanmoins, spirituellement, elle servait le Seigneur tous les jours, par le jeûne et la prière. Parce qu'il y a des jeûnes que, par exemple, on peut faire du, comme ça a inspiré, entre autres, le jeûne des musulmans, du lever du soleil au coucher du soleil, on ne mange pas. Ça, c'est un jeûne qui était pratiqué souvent en Israël. Anne le pratiquait régulièrement. Elle mangeait, c'est comme si elle faisait un grand ramadan sans arrêt. Mais elle s'humiliait, elle cherchait la face du Seigneur et elle priait. Pour prier, pour la vie de prière, c'est comme tout le reste. Ça s'apprend. Il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'attention à cette discipline de la vie de prière. Comment, par exemple, se recueillir? C'est quand même intéressant ce petit mot-là. Recueille-toi. T'sais, c'est comme ramasse-toi de partout ou de ce côté-là. T'sais. Mets-toi dans un panier devant Dieu. On est dispersé souvent dans notre pensée et on manque de concentration devant le Seigneur. Donc, se recueillir, première étape. Deuxième étape, oui, on ne va pas nier notre besoin. On ne va pas nier que c'est de l'extérieur que vient la solution. Elle ne viendra pas de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir ce fardeau que c'est moi qui dois avoir par moi-même la réponse à tous les problèmes que j'ai dans ma vie. Le jeûne me rappelle, comme j'ai besoin, parce qu'il dit ici, d'abord, quand il parle de Anne, je vais finir avec mes notes, c'est de la discipline. Okay. L'église d'Antioche était en train d'adorer le Seigneur dans Acte 13, vous vous rappelez? En train d'adorer le Seigneur et de jeûner, adorer et jeûner aussi en même temps, quand le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » J'ai trouvé ça dans Acte 13, verset 2. Quand même intéressant de voir que ces hommes, des prophètes et des docteurs, étaient devant Dieu, ensemble, dans le jeûne et la prière. Ils adoraient Dieu et c'était une manière de s'humilier devant le Seigneur. Ils arrêtaient l'activité même de manger, peut-être pour avoir plus de temps, et ils s'arrêtaient devant le Seigneur. Ils arrêtaient toute leur activité. Et souvent, c'est comme agressant d'arrêter les activités pour se mettre à part pour un temps de prière et de jeûne. C'est comme, tu sais, tu as l'impression que ça désynchronise ta vie. Mais peut-être, des fois, c'est pas mauvais d'arrêter. De toute façon, Dieu nous force à nous arrêter à la grandeur de la planète. Et moi, je prie encore une fois que ça puisse être utile pour nous tous. Très utile. Même, c'est très désagréable en passant, c'est même bizarre. C'est vraiment un temps bizarre. On se demande, coudonc, y a-t-il un complot qui est en train de s'organiser? Qui est derrière tout ça? Comment ça s'est fait tout ça? Et c'est très légitime de se poser toutes ces questions-là. Là. Mais moi, je suis obligé de me rassurer devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu règnes. Il n'y a rien qui t'échappe. Maintenant, montre-moi, peu importe, parce que je n'ai pas de toute façon le pouvoir de faire quoi que ce soit si c'est un complot. C'est ce que je fasse. Par contre, j'ai accès à ton trône de grâce. Tu nous as fait connaître ton nom. Seigneur, oui, je sens ma misère, je sens mon incapacité. On dirait bien des gens te demandent des fois, tu veux-tu nous représenter dans ça, tu veux-tu nous représenter là? Tu dis, mais ça va donner quoi? On dirait qu'il y a des temps, honnêtement, je n'y crois. Puis déjà, je n'ai jamais eu trop de foi dans ma société, là, puis dans le genre humain. Là. C'est pas nouveau, là, vous le savez, là. Mais j'ai besoin que le Seigneur me reparle pour savoir où je m'implique, où je ne m'impliquerai pas. Parce que j'ai besoin qu'il nourrisse ma foi. Si le Seigneur me montre une direction, s'il semble confirmer quelque chose, bon, ok, je vais y aller. Pas encore parce que je pense que ça va marcher parce qu'il y a tous les éléments qu'il faut que ça marche. Mais si lui ordonne, déclare la bénédiction, ça va arriver. Lui peut ordonner un réveil sur le Québec et malgré toute la moquerie qu'on met à tous les jours, on traîne le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la boue. Eh bien, le Seigneur, son Père, peut sanctifier ce nom. Il peut glorifier le nom de Jésus-Christ. Il peut accorder finalement à une population la repentance. Dieu peut aimer ses ennemis parce que c'est ce qu'on était avant qu'il nous sauve. Selon ce que Paul lui-même nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, on était les ennemis de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, sans arrêt, on a tendance à oublier que par nature, on ne cherchait pas le Seigneur. Mais lui nous a trouvés. Et ça, c'est rassurant. Donc, il dit, après ça, Paul et Barnabas firent élire des responsables dans l'Église. Ils cherchaient, comme nous en ce moment à l'Église, on cherche qui serait destiné à être des anciens dans l'Église. Eh bien, ils prièrent et jeûnèrent pour les confier au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, le jeûne ici est encore un autre moment. Seigneur, on veut être sûr, est-ce qu'on a bien discerné ta volonté? Parce que finalement, on leur confie une tâche, responsabilité importante. Non seulement ça va avoir un effet sur l'Assemblée quand on cherche à discerner qui sont des anciens, mais ça a aussi un effet sur ceux qui vont être appelés dans cette position. Car toute position à qui Jésus va donner plus, il va demander plus. Il y a un jugement beaucoup plus sévère sur ceux qui enseignent. Puis croyez-moi, le Seigneur me le rappelle assez régulièrement. Si je fais juste un petit faux pas de rien, et je l'entends de partout. Et puis, à un moment donné, tu as le goût de dire, écoute, c'est fini. Moi, là, laissez-moi tranquille. Mais, le Seigneur dit, non, tu continues. Humilie-toi, demande pardon, attends-toi à moi, on continue. OK, OK. Donc, le jeûne accompagnait donc la prière dans de nombreuses situations, dans des moments d'intense intercession, de repentance, d'adoration, de recherche de la volonté du Seigneur. Dans chacune de ces situations, le jeûne est source de plusieurs bienfaits qui affectent notre relation avec Dieu. M. Gruden nous rappelle, un, le jeûne nous rend plus humbles et plus dépendants du Seigneur, car la faim et la faiblesse physique nous rappellent sans cesse que nous sommes sans force en nous-mêmes. Et comme la nourriture est externe, nous avons besoin du Seigneur. C'est bien dit ça. Deuxièmement, le jeûne nous permet de consacrer à la prière le temps que nous aurions normalement passé à manger. C'est assez logique. Le jeûne nous rappelle continuellement que, tout comme nous sacrifions notre confort personnel pour le Seigneur en ne mangeant pas, nous devons continuellement lui sacrifier tout notre être. C'est probablement pour des raisons similaires, consacrer plus de temps à la prière, renoncer au plaisir personnel, que Paul permet au couple marié, intéressant, il y a un jeûne ici, en plein accord l'un avec l'autre, faut ça de plein accord, de renoncer pour un temps à leur relation conjugale afin de vous consacrer davantage à la prière. 1 Corinthiens 7, verset 5. De plus, le jeûne, 4, est un bon exercice d'autodiscipline. Car quand nous nous abstenons de consommer une nourriture qui normalement nous ferait envie, cela augmente aussi notre capacité de nous abstenir du péché, auquel nous pourrions autrement être tentés. Le Seigneur l'avait même dit, « Prenez garde à la tentation, au piège que produit la table, parce que finalement, ça peut affaiblir notre âme. » Donc, Paul parle de comment il possédait son corps sous discipline. Parce qu'il dit, « Après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être moi-même rejeté. » Tu sais, dans sa lettre aux Corinthiens, la deuxième, je crois, il rappelle finalement qu'il gardait une autodiscipline sur sa vie. Non pas qu'elle produisait un mérite devant Dieu, mais possède ce que Dieu t'a donné. Laisse-toi pas posséder par les choses que Dieu t'a données. Possède ta vie qui va posséder les choses que Dieu nous donne après. La nourriture est un bon exercice, et comme beaucoup de choses. Après, il dit, le jeûne augmente également notre vivacité mentale et spirituelle et le sentiment de la présence de Dieu parce que notre attention est moins fixée sur les choses matérielles de ce monde et que notre corps consomme moins d'énergie à digérer et transformer les aliments. C'est vrai, après un gros repas, c'est assez dur des fois de prier et de se concentrer, pas vrai? C'est tout ton sang ne s'en va pas finalement dans ton cerveau pour penser, on dirait que ça t'en va dans ton estomac pour dire « OK! » Gros job à faire ici. Et puis souvent, on cogne des clous, puis on n'est pas trop là, t'sais. Donc c'est vrai, ceux qui se pratiquent au jeûne, vous allez remarquer qu'il y a comme une énergie qu'on n'a pas normalement souvent quand on se met à jeûner. Au début, il y a comme un petit moment de faiblesse, on dirait, puis il y a comme une réadaptation où est-ce qu'il y a une attention plus vive. Ça, pour la concentration, pour la prière, pour vraiment arrêter, on dirait, tout ça. Comment je pourrais dire? Encore une cette expérience, se recueillir, se ramasser de partout pour se concentrer et arriver comme une seule personne devant Dieu plutôt que d'avoir juste un petit bout d'attention parce que le reste est dans ta cuisine, un autre est dans ton travail, un autre partie de toi est dans une relation, une chienne, une ci, une ça. Là, tu dis non, rassemblons-nous, recueillons-nous. C'est vraiment une belle expression, je trouve. Et finalement, le jeûne exprime le sérieux et l'urgence de nos prières. Si nous continuons à jeûner, nous allons finir par mourir, c'est sûr. Par conséquent, le jeûne est une façon symbolique de dire à Dieu que nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la situation change. Dans ce sens, le jeûne est particulièrement approprié quand l'état spirituel de l'Église est bas. Donc, je nous laisse là-dessus et encore une fois, juste nous rappeler la bonté, l'amour que Dieu a pour nous. Je dis, il nous a ouvert sa porte. C'est notre Père maintenant en Jésus-Christ. Donc, étant né de nouveau, étant ramené à la vie avec Christ, celui qui rassemble toutes choses maintenant, tout pouvoir lui a été donné, sur la terre comme au ciel. Pas juste au ciel, sur la terre, sur notre vie. On peut aller voir celui qui a tout pouvoir et qui nous a adoptés, qui a payé notre dette. Donc, c'est vraiment très encourageant. Donc, je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il y a des questions, des commentaires, gênez-vous pas de m'écrire à info@bibleparle.com et ça va m'être acheminé. À bientôt!